Voilà. Acte chapitre 1er, versets 1 à 8, a fait l'objet de notre attention dans le cadre de cette série d'études sur le livre des Actes des apôtres. On a passé quelques bonnes minutes sur les versets 1 à 3, hein, sur les versets 1 à 3. Hein. On avait le privilège, dans la grâce du Seigneur, de nous attarder un peu sur et à l'auteur de ce livre puissant, en l'occurrence le docteur Luc. Et on s'est attardé sur ses objectifs, son intention en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur biblique, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. On s'est attardé sur ce que lui-même a exprimé comme étant son intention en rédigeant le livre en question. Je ne reviendrai pas sur ce que j'avais dit concernant cette intention-là. Si vous l'avez oublié, mais vous n'avez qu'à relire les versets 1 à 2 et vous le verrez. Alors voilà, et on a glissé un petit mot sur ce personnage et assez discret que représente Théophile et qui est nommé deux fois dans les deux écrits du docteur Luc. En l'occurrence, l'Évangile selon Saint Luc et le livre des Actes des apôtres. Un troisième et dernier élément, pas dernier, mais un troisième et un autre élément qu'on a visité ensemble, mercredi dernier, c'était un genre de suivi qu'il y a entre le livre des Actes des apôtres et l'Évangile selon Saint Luc. Luc semble avoir un projet unique pour ces deux livres-là, ce que j'appelle moi-même un en deux, hein, un recueil en deux volumes. Un recueil en deux volumes. Voilà. Et c'est à peu près ça, apparemment. Le livre des Actes constitue un prolongement, hein, du livre de l'Évangile selon Saint Luc. De toute évidence, c'est un prolongement. Luc n'avait pas fini de dire tout ce qu'il voulait dire en Luc. Alors, il poursuit à travers le livre des Actes. Et voilà, un autre élément important que j'ai fait ressortir, ce sont les apparitions du Seigneur au verset 3, quand Luc dit après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Hein? Plusieurs preuves de sa résurrection, hein? Du fait qu'il est revenu à la vie. Et se montrant à eux pendant 40 jours. Hein? Je vous avais dit que le Seigneur ressuscité s'est montré à plusieurs reprises à ses proches, au collège apostolique, mais à d'autres frères et sœurs qui étaient avec lui, qui le suivaient, qui étaient sincères avec lui. Et il se montrait à eux. Et j'avais expliqué dans un but précis. C'était afin de les d'avoir encouragé, mais aussi afin de les convaincre du fait qu'il est ressuscité ou du fait qu'il était ressuscité. C'était ça le but de ces multiples apparitions-là. Il n'a pas vécu avec eux tous les 40 jours. Il leur apparaissait une fois de temps en temps, une couple de jours. Il me semble qu'une fois qu'il est ressuscité, il n'était plus avec eux comme cela était avant sa mort, pendant tout cas pendant les 3 ans de ministère. Ici, il faisait des apparitions. Bon, j'en ai nommé quelques apparitions. L'écriture, à la suite de l'écriture, j'ai nommé quelques apparitions, quelques circonstances d'apparition. Et là où les disciples se trouvaient, et lui qui apparaissait. Alors, c'était ça, un peu de ça, c'est de ça que Luc parle quand il dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. C'est bien important pour Luc et c'est important pour la foi, pour la doctrine, de se rappeler, de savoir que le Seigneur, après sa résurrection, il y a du monde qui l'ont vu à sa satiété, qui l'ont vu à plusieurs reprises. Hein? On parle ici d'un Jésus historique, hein? Un Jésus historique, un Jésus spirituel, mais en même temps un Jésus historique. La résurrection est un acte historique, la vie du Christ est historique et spirituelle. Gloire à notre Dieu. Le Seigneur voulait s'assurer que les disciples avaient la conviction nécessaire, l'audace, la hardiesse, l'autorité nécessaire pour proclamer le message de l'Évangile. C'est la raison principale qui motivait, eh bien, ces apparitions. Et comme je l'ai expliqué, je vais en reparler si Dieu veut, pas plus tard que ce soir. Et je disais, quand je vous disais cela, je vous disais que le Seigneur, il est sage. Il savait ce dont les disciples avaient besoin. C'est-à-dire que ce qu'il faisait avait porté fruit, avait produit ses résultats positifs. En ce sens que les disciples étaient effectivement galvanisés pour la proclamation. Ils étaient blindés pour la proclamation de l'Évangile. Par le fait qu'ils l'ont vu vraiment. Le fait qu'ils l'ont vu, ces apparitions ont eu un impact sur leur motivation, sur leur force, sur leur courage, sur leur détermination à proclamer, eh bien, la sainte doctrine de la naissance, de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. C'était le but. Le but était atteint. Eux qui étaient des peureux, des sceptiques, des douteux, eh bien, après avoir vu le Seigneur à plusieurs reprises, eh bien, rien ne pouvait les arrêter. Comme on a vu quand on étudiait les martyrs de l'Église, eh bien, ils étaient prêts à tout jusqu'à mourir pour proclamer ce qu'ils ont vu, ce dont ils ont été témoins. Gloire à notre Dieu. Maintenant, et à la suite du verset 3, et pour aujourd'hui, hein, Luc dit, le Seigneur parlait au verset 3, acte chapitre 1er, verset 3, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Le Seigneur leur est apparu à plusieurs reprises pendant 40 jours, et leur parla de choses concernant le royaume de Dieu. Hein? Le Seigneur leur parlait de choses concernant le royaume de Dieu. Avant sa mort, nous l'avons vu, vous et moi, il leur a beaucoup parlé des choses concernant le royaume de Dieu, mais visiblement, il n'avait pas fini de leur en dire. Probablement, il a repris des enseignements qu'il leur a déjà communiqués concernant le royaume de Dieu avant sa mort. Mais de la même manière, on peut croire qu'il leur a dit des choses nouvelles qu'il ne leur avait pas dit, hein, quand il se trouvait avec eux entre dans la chambre, même avant, durant les 3 ans de ministère. Probablement, il y a eu des rappels, hein, il y a eu des rappels, et il y a eu de l'enseignement, de l'élément nouveau, des éléments nouveaux à titre d'enseignement sur le royaume. Une chose demeure certaine, pardon, c'est que si le Seigneur leur parle des choses concernant le royaume, eh bien, ça doit être des choses qui concernent cette fois-ci, eh bien, la véracité du royaume. Parce que ils viennent d'être ébranlés avec la mort du roi. Certes, ils l'ont vu ressusciter, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup, même. Mais qu'à cela ne tienne, apparemment, le Seigneur le continuait de les enseigner, de leur expliquer que la mort du roi, du royaume, eh bien, n'a pas été capable de freiner la marche du plan de Dieu en ce qui concerne le royaume, l'établissement du royaume. Et on se rappelle, les apôtres avaient beaucoup de difficultés à croire que, après la mort de Jésus, que le royaume était viable. La promesse du royaume était certaine, que la promesse du royaume était réalisable. Maintenant qu'il est ressuscité, qu'il prend les moyens pour qu'il le voie, alors c'est sans surprise qu'il en profite, hein, pour leur dire, écoutez, voyez-vous, le royaume est une réalité certaine. Hein, la promesse du royaume est une réalité certaine, puisque le roi du royaume qui est mort, mais il est ressuscité sous vos yeux. Il savait que, à quel point cela les déboussolait. Et il savait à quel point sa mort à titre de roi, de Messie, eh bien, était susceptible de les porter à se décourager, à ne plus croire aux promesses. Alors, c'est tout à fait normal que l'enseignement de Jésus, eh bien, sur le royaume, eh bien, puisse les remonter leur morale, leur faire changer d'avis. Et comme je le dis, c'est ça qui s'est passé. Après la résurrection, ils ont proclamé Jésus comme roi. Jésus est mort, il est ressuscité. Ils savaient à quel point ils étaient troublés par sa mort. Lui qui est le roi du royaume, sa mort a amené le désespoir le plus total pour eux. Étant ressuscité, il leur parle du royaume en leur disant, entre autres, mais le royaume est une réalité. La promesse est une réalité, le roi du royaume étant revenu à la vie. Et alors, c'est bien important de comprendre cela. Et au verset 4, maintenant, il est écrit, hein, le docteur Luc écrit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ah. Et avant d'aller plus loin, on va regarder rapidement. Ok, terminons avec le verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, verset 5, acte 1er, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et je rattache le verset 8 à avec verset 4 à 5. Je saute provisoirement verset 6, 7, OK? Je saute provisoirement verset 6, 7 et je rattache verset 8 à au verset 4 à 5, OK? Mais vous recevrez une puissance, verset 8 à, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, le texte nous indique il y a de quoi il est question ou de qui il est question quand il leur dit quand il leur dit d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc, le verset 8 nous dit de qui ou de quoi hein, il s'agit. Ils ont reçu le message du royaume. Hein? Jésus leur parla des choses concernant le royaume. Ils ont vu le Christ ressuscité à travers de multiples apparitions. Les apôtres pouvaient penser qu'ils étaient prêts enfin à travailler par leur propre force pour proclamer le message. Ils ont vu le roi ressuscité, ils ont reçu des éléments d'enseignement concernant le royaume. Les apôtres peuvent penser, peuvent croire, ça y est, on est prêt pour le service. Mais alors qu'ils se trouvaient avec eux, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. En l'occurrence, comme le dit le verset 8a, le Saint-Esprit de Dieu, ce que le Père avait promis, ce que lui avait annoncé. Regardons Jean 14 qu'on a étudié il y a quelques mois. pour voir ce qu'il avait annoncé, quand il l'avait annoncé, comment il l'avait annoncé. Et Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Et voici ce qu'il lui a annoncé. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voyez-vous, le Saint-Esprit de Dieu demeure éternellement avec le croyant dans la nouvelle alliance. Hein? Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit de Dieu demeure éternellement avec vous. L'oratoire. Hein? Et l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec eux, oui, parce qu'ils étaient enrôlés dans le royaume de Dieu et à partir de la Pentecôte, il sera en eux. Hein? Il demeure avec eux pour le service, mais il sera en eux à partir de la Pentecôte. Donc, quand Jésus dit en Actes chapitre 1er, verset 4, ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, mais qui côté il t'a annoncé là, c'est là qu'il était avec eux, entre autres. Mais il l'a fait, il a annoncé la venue de l'Esprit à d'autres occasions encore. Il l'a fait avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il l'a fait à d'autres occasions, mais une des occasions, une des dernières occasions où il l'a annoncé, c'est Jean chapitre 14 que vous et moi, on a déjà étudié alors qu'il était avec ses disciples dans la chambre haute. Et il va reprendre la même annonce, toujours dans la chambre haute, au chapitre 16, verset 7. Quand il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà, dans la chambre haute, deux occasions, deux occurrences où le Christ, le Fils de Dieu, a promis, eh bien, à ses disciples, le don de l'Esprit. Hein? Le don de l'Esprit pour l'éternité. Hein? Il demeure éternellement avec vous. La raison pour laquelle, quand on étudiait la repentance pour le salut la fois passée, c'est la raison pour laquelle, vous vous rappelez, je disais, nous n'avons pas à craindre de perdre le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin de demander de dire au Seigneur de ne pas nous retirer le Saint-Esprit, car nous l'avons en permanence, nous l'avons éternellement. Pas oublier ça, non? C'est pour ça que Dieu n'est pas capable de perdre cet esprit, non? Nous l'avons éternellement. Alors, voilà pourquoi Jésus dit maintenant d'attendre à Jérusalem ce que je vous ai promis. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Je viens de dire quelque chose qui est très important. Je dis que les disciples ont reçu le message, ils ont vu le Seigneur ressuscité, ils se croyaient prêts pour se mettre à la tâche, mais Jésus savait qu'ils n'étaient pas encore prêts, hein, et qu'il fallait qu'ils attendent pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, c'est très important de comprendre cela pour la vie chrétienne pratique. Ce que cela montre, hein, ce que cela veut dire pour vous et moi, c'est que la connaissance, la préparation, la formation que les apôtres avaient était nécessaire, mais insuffisante pour proclamer le message du Christ sans la puissance de l'Esprit du Christ. Hein? Ils avaient tout en main. Ils étaient formés. Ils étaient expérimentés. Ils ont vu le Seigneur ressuscité. Ils ont reçu le message, mais ils n'étaient pas prêts. C'était nécessaire, tout cela. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que ce n'était pas nécessaire. Sauf que c'était insuffisant tant qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et pour nous, la leçon est claire. Je crois que le frère Jacques disait cela tout à l'heure, dans ses propos d'introduction. Pour nous, cela est clair. C'est la même chose. Sans la présence, la puissance et l'action du Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Notre connaissance est nécessaire. Notre préparation est nécessaire. Notre expérience est nécessaire. Pourquoi pas? C'est des plus-values, c'est des atouts, c'est des avantages dans le Seigneur. Mais sans l'action, sans la présence, sans la puissance du Saint-Esprit, donc sans la soumission au Saint-Esprit, eh bien, nous ne pouvons rien. Ainsi, frères et sœurs, pour s'assurer que les apôtres, en plus d'être motivés, en plus d'être formés, en plus d'être expérimentés, pour s'assurer qu'ils soient remplis, gloire à notre Dieu, de toute la plénitude de l'Esprit, cette puissance surnaturelle de Dieu pour accomplir leur mission, Jésus leur a commandé, comme il le fait au verset 4, Actes chapitre 1er, il leur a commandé d'attendre ce que le Père avait promis. Et cette promesse est répétée à plusieurs reprises, tandis que Jésus exerçait son ministère. En Luc 11, verset 13, il a promis le Saint-Esprit. En Luc 24, il a promis le Saint-Esprit. 49. Jean 7, verset 39, il a promis l'Esprit. Ainsi de suite. Hein? Il a promis que le Saint-Esprit de Dieu, hein, sera envoyé, sera donné à profusion. Et c'est ce qui est arrivé. Ce qu'il a promis, c'est ce qui est arrivé. Le Saint-Esprit a été donné. Hein? La promesse va s'accomplir 10 jours plus tard, par rapport au moment où Jésus leur a dit d'attendre à Jérusalem. Hein? Il restait 10 jours, hein? Et, pour qu'ils reçoivent ce que le Père avait promis. 10 jours nous amène au jour de la Pentecôte, au 5e jour de la résurrection du Christ. Et ils vont recevoir effectivement ce que le Père avait promis, oui, et ce que le Fils avait annoncé, et ils vont le recevoir effectivement 10 jours plus tard par rapport à quand Jésus leur faisait cette annonce. On rend gloire à notre Dieu pour ce témoignage puissant que le docteur Luc nous laisse dans la parole du Seigneur. Alors, la Pentecôte va avoir lieu et ils vont recevoir ce que le Père a promis, ce que le Fils a annoncé. Les apôtres connaissent déjà le Saint-Esprit de Dieu. Hein? Ils ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit de Dieu déjà. Ils ont déjà parti en mission. On en a vu tout cela. Hein? Ils ont vu l'Esprit à l'œuvre, que ce soit dans leur vie, que ce soit dans la vie du Fils de Dieu lui-même, du Messie fait homme lui-même. Ils l'ont vu. Et le Seigneur les a envoyés prêcher. Il leur a dit, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et c'est ce qui s'est passé. Ils connaissent le Saint-Esprit de Dieu. Hein? En Jean 14, verset 17, l'Esprit de vérité demeure avec vous. Donc, ils ont une bonne expérience avec le Saint-Esprit de Dieu. Hein? À l'instar des croyants de l'Ancienne Alliance, ils ont vu l'Esprit à l'œuvre dans leur vie. L'Esprit a sauvé, l'Esprit a guéri, l'Esprit a fortifié, l'Esprit a encouragé, l'Esprit a consolé, l'Esprit a défendu des causes justes en eux, pour eux et sous leurs yeux. Mais n'empêche qu'ils ont besoin, hein, de cette présence permanente de l'Esprit pour le ministère que le Père a promis. Parce que c'est conforme à ce que Dieu veut faire dans l'Ancienne Alliance, comme je le disais la fois passée, L'esprit était donné pour un temps, pour un ministère précis. Et même pendant que le Fils de Dieu est sur la terre, l'esprit a été donné aux saints apôtres, à ses disciples, au collège des douze, pour un service précis. Hein. Mais dans la Nouvelle Alliance, à partir de la Pentecôte, l'esprit va être donné sans mesure, hein, et en permanence, pour tout temps. Et l'esprit remplira d'une façon particulière ces bien-aimés-là pour le ministère qu'ils avaient à remplir. Mais la promesse est pour tout le monde. Ce que le Père a promis, ce que le Fils a annoncé, a été promis d'une façon particulière aux saints apôtres, pour le ministère particulier qu'ils avaient. Mais plus largement, c'est une promesse qui s'adresse à tous les croyants en Jésus-Christ de la Nouvelle Alliance. Ils avaient besoin de cette puissance pour partir l'Église. Ils avaient un travail de codification de la parole de Dieu à faire. Et pour toutes ces raisons, ils avaient besoin du don de l'Esprit. Mais à un second degré, hein, après la Pentecôte, tout le monde va recevoir, qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur, va être au bénéfice de l'œuvre de l'Esprit, va être au bénéfice du don de l'Esprit que le Fils de Dieu fait. C'est très important de comprendre cela pour la doctrine, parce qu'il y a des congrégations qui enseignent une fausse doctrine, qui vont essayer de montrer que ça prend une cérémonie particulière, une cérémonie à part, comme à la Pentecôte, pour recevoir l'Esprit. Non, les saints apôtres l'ont reçu comme ça, et après eux, tout le monde ne va pas le recevoir comme ça. Tout le monde va le recevoir seulement, comme je l'ai déjà dit dans la congrégation, à plusieurs reprises, à la conversion, à la seconde de la conversion, à la toute première fraction de seconde de la conversion, tu reçois le Saint-Esprit. Hein? La promesse que le Saint-Esprit serait donné à tous les croyants fait partie des prophéties de l'Ancien Testament concernant la Nouvelle Alliance. On l'a vu ensemble, Ézéchiel 36. Hein, je répandrai sur vous une eau pure. On était là-dedans il y a 4 semaines ou 5, mais juste avant Pâques, en tout cas, on était là-dedans. La promesse est certaine. Je répandrai sur vous une eau pure. On a décortiqué ce texte ensemble et vous serez purifiés. N'oubliez pas cela. Donc, dans la lumière de Ézéchiel 36, comme on l'a dit la dernière fois, eh bien, il y a une plénitude de l'Esprit dans la Nouvelle Alliance pour tous les croyants de la Nouvelle Alliance. Hein? Le baptême de Jésus-Christ, c'est un bon exemple de ce don particulier et de ce don général de l'Esprit. J'ai dit, les apôtres l'ont reçu, en tout cas, tous ceux qui étaient là, pas juste les saints apôtres, tous ceux qui étaient là ont reçu l'Esprit, qui se sont mis à parler en langue, on le verra bientôt si Dieu veut, mais ils ont reçu ce don pour partir l'Église, hein, dans les circonstances difficiles qu'on a vues, pour porter le message du royaume et de la résurrection de Dieu et de la résurrection du Christ. Mais voilà ce que j'appelle un don particulier de l'Esprit à la Pentecôte. Et je suis en train d'expliquer que même si eux ont reçu l'Esprit dans cette condition-là, chaque chrétien n'est pas obligé de recevoir l'Esprit lors d'une cérémonie ou d'un temps particulier de prière, de rassemblement. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi j'insiste? Mais parce qu'il y a des églises qui enseignent ça au moment même que ma parole est là. C'est pour ça que j'insiste. Alors, les apôtres l'ont reçu dans ce décor-là, dans ce moment-là, de façon spectaculaire, hein, de façon spectaculaire, tout le monde se sont mis à parler en langue, etc. Mais tout le monde n'est pas obligé de recevoir comme l'Esprit comme ça. Il n'est pas prévu dans les restes de l'Écriture que c'est comme ça que chaque croyant doit recevoir l'Esprit. Ça se passe de manière plus discrète que cela. À la minute où on accepte le Christ comme son sauveur, on reçoit l'esprit du Christ. Maintenant, il y a le baptême de Jésus peut nous expliquer cela. Jésus a reçu le baptême de cette façon-là. C'est-à-dire que les Guéens ont l'esprit comme don spécial pour le service. Hein, et le Christ était en harmonie parfaite. Hein, il était en communion parfaite avec l'esprit. Ils sont un, Dieu merci. Mais au moment de son baptême, on a vu le ciel s'ouvrir et le Saint-Esprit de Dieu descendit sur le Christ. Hein? Et la parole de Dieu va rapporter que c'est descendu sur lui sous une forme corporelle que l'Écriture retient sous l'image d'une colombe. Luc 3, verset 21b, verset 22a. Donc, ce qu'on voit quand le ciel s'ouvrit et que le Fils de Dieu reçoit l'Esprit symbolise la plénitude de la puissance de l'Esprit que Jésus avait besoin pour accomplir son ministère. Mais c'est ce qui est arrivé avec les saints apôtres, tous ceux qui étaient là, qui avaient la responsabilité de proclamer le message du Christ, le mandat que le Christ leur avait laissé. Ils ont reçu l'Esprit dans ce double sens aussi. Et c'est tellement vrai pour le Fils de Dieu qu'il avait besoin du Saint-Esprit de Dieu pour un ministère spécial, comme don particulier pour le service, qu'on verra que dans la synagogue de Nazareth, une fois qu'il avait fini de recevoir l'Esprit, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer, voyez-vous, il m'a oint pour annoncer. Donc, un don particulier pour un service particulier pour le ministère. Il était en harmonie avec l'Esprit, mais il a dû recevoir l'Esprit pour son ministère. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc. Je vous fais grâce du reste, mais je voulais simplement attirer votre attention sur qu'est-ce que ça veut dire recevoir l'Esprit pour un service particulier, comme un don particulier, mais en même temps, il y en a d'autres qui vont recevoir ce même Esprit-là pour le ministère, mais aussi pour la vie chrétienne et victorieuse. Donc, un don particulier, mais en même temps un don normal, un don naturel, hein, parce que sans l'Esprit, il y a personne qui peut vivre la vie chrétienne de manière victorieuse. Donc, voilà pourquoi les apôtres l'ont reçu d'une façon spéciale et pour la vie chrétienne en général. Ainsi, ceux qui vont être à la suite des apôtres n'auront pas besoin de recevoir l'Esprit d'une façon spéciale, sous forme d'un don particulier, mais ils vont le recevoir pour la vie chrétienne, incluant le ministère, le service et le ministère. Il y a d'autres personnes encore, à part les apôtres, qui ont reçu l'onction de l'Esprit pour un service particulier. C'était le cas de Zacharie et le père de Jean-Baptiste en Luc 1er, versets 67 à 79. Et la parole de Dieu nous montre qu'il a prophétisé dans la puissance, hein, de l'Esprit. Si vous lisez le texte attentivement, Luc 1er, verset 67 à 79. Hein, dans le cas du Christ, qui a reçu l'onction de l'Esprit au baptême pour le ministère, dans le cas de Zacharie, dans le cas des saints apôtres, eh bien, une seule réalité demeure la même, à savoir que le Saint-Esprit de Dieu a été manifesté avec une plénitude particulière afin d'exercer un ministère particulier, un ministère exceptionnellement puissant et particulier, comme ça a été le cas pour le Christ, pour Jean-Baptiste, pour Zacharie, et oui, Jean-Baptiste aussi et d'autres, pour le travail du Seigneur. Jésus dit que la promesse du Père pour eux est ce que je vous ai annoncé. On pouvait se demander qu'est-ce qu'il a annoncé, mais on l'a regardé ensemble. On a lu Jean chapitre 14, on a lu Jean 16 pour voir ce qu'il a annoncé. Mais en plus de ces passages qu'on a lus ensemble, le verset suivant lève le voile sur ce qu'il a annoncé, hein. Et parce qu'il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit de Dieu. Moi, je suis allé lire avec vous en Jean 14 et en Jean 16 pour vous montrer ce qu'il a annoncé. Quand est-ce qu'il l'avait annoncé? Dans quel contexte, dans quelles circonstances, où et quand il l'avait annoncé? Mais nous n'avions pas besoin de ça pour savoir qu'il parle du Saint-Esprit de Dieu, que ce que le Père a promis, que ce que lui a annoncé, c'est le Saint-Esprit. Parce que, pourquoi? Parce que la suite du passage révèle de qui il est question. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés. C'est comme ça qu'on lit la Bible. Parce que la plupart du temps, le texte s'explique par lui-même. Hein? Le texte s'explique par lui-même. Donc, ça signifie que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui l'a annoncé et que le Père a promis, encore une fois. Jean a dit, celui qui m'a, il a dit, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Ça, c'est important. C'est bien important de faire le lien entre ces deux, parce qu'il dit, Jésus dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous vous rappelez quand Jean baptisait d'eau, voici ce que Jean disait, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'est Jean qui parle ici, en Jean 1er, verset 33, celui qui, que, sur qui, pardon, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Pourquoi comprendre ça qu'il y a là? Ça veut dire que lui, il va, le temps que Jean a annoncé arrive maintenant. Mais en tout cas, va arriver dans 10 jours. Jésus lit le ministère et les paroles de Jean à ce que le Père promet et à ce qu'il a annoncé et à ce qu'il vient d'annoncer. Hein? À ce qu'il a pas même vient d'annoncer, à ce qu'il est en train d'annoncer. Il lit les paroles de Jean et le ministère de Jean. Il renvoie ses interlocuteurs, ses disciples de qui il parle du royaume après sa résurrection. Il les renvoie à la réalité passée à peine, à quelques années en arrière, 1, 2, 3 années en arrière, pour ce qui concerne il y a ces 3 ans de ministère. Voyez-vous, il lit l'action, le ministère de Jean, à ce qu'il est en train de promettre, à ce qui va se passer dans 10 jours. Il le rappelle, et Jean avait dit, hein, que celui sur qui, non, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit s'arrêter, et c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, il va les baptiser. Attendez-moi, je vais vous baptiser du Saint-Esprit, comme je l'ai annoncé, comme Jean lui-même l'a annoncé. Cela va se faire maintenant. Le moment est arrivé dans ce temps-ci pour que cela s'accomplisse. Donc, comme je l'avais dit, la promesse va s'accomplir dans 10 jours, pour être plus précis. J'attire votre attention sur ce qui suit. Malgré ce que beaucoup de gens, beaucoup d'églises, beaucoup de croyances, beaucoup d'enseignements. On va le dire comme ça. Pas église, enseignement. Ok, j'enlève église. Malgré ce que disent certains enseignements, Malgré tout ce que disent certains enseignements, ce que les saints apôtres et les premiers disciples qui étaient avec eux, parce que je viens de dire qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir été baptisés du Saint-Esprit, ce qu'ils ont vécu, en tout cas ce qu'ils vont vivre bientôt, dans 10 jours, ce n'est pas la norme pour la croyance d'aujourd'hui en Jésus-Christ. Ce n'est pas la norme pour les chrétiens d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ont reçu, ils ont eu besoin et ont reçu une onction unique du Saint-Esprit de Dieu, ce que j'appelle tantôt un don particulier. Ils reçoivent, ils ont reçu une onction unique du Saint-Esprit de Dieu pour accomplir une tâche, un mandat particulièrement exceptionnel. Ils ont reçu aussi le baptême général et commun du Saint-Esprit, mais tous les croyants, depuis la fondation de l'Église, ils n'ont pas reçu l'ordre, la consigne, l'exhortation de recevoir l'Esprit, contrairement aux saints apôtres qui devaient rester là pour attendre l'effusion de l'Esprit, le don de l'Esprit. Vous et moi, et les chrétiens qui ont vécu avant nous, ceux qui vivront après nous, n'ont pas reçu cet ordre-là. Aller sur telle montagne, aller dans telle église à tel moment pour aller recevoir le Saint-Esprit, il va le mettre main sous tête ou pour bordon le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. C'était fait une fois pour toutes, pour les raisons que j'ai répétées plusieurs fois là, parce que bon, c'est important pour la doctrine, mais pas besoin de cérémonie encore. La seule instruction que nous recevons dans le Nouveau Testament en ce qui nous concerne au deuxième degré, c'est d'être rempli de l'Esprit. Une autre instruction que nous recevons, eh bien, c'est de nous soumettre à l'Esprit, de marcher selon l'Esprit. Mais nous n'avons pas d'instruction qui nous dit recevez le Saint-Esprit. Il n'y a pas cette instruction dans la Bible pour les chrétiens. Recevez les Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Non. Attends le Saint-Esprit quelque part. Il n'y a pas ça pour nous dans l'Écriture, dans la Nouvelle Alliance. Il y avait ça une fois. Attendez, il viendra le Saint-Esprit. Mais non, pour nous, non. Nous recevons l'instruction d'être remplis, soyez remplis de l'Esprit. Entre autres, Éphésiens 5, verset 18. De rechercher la plénitude de l'Esprit et non le don de l'Esprit. Toi et moi, nous n'avons pas à rechercher le don de l'Esprit. Non. Nous avons à prier pour ne pas, pour être remplis de la plénitude de l'Esprit. Il y a les apôtres et les premiers croyants ont reçu l'ordre d'attendre, eux, contrairement à nous. Ça traduit un changement dans le travail de Dieu, dans l'accomplissement du plan de salut de Dieu, tout simplement. Hein? Et pourquoi il en était ainsi pour eux? Parce qu'ils ont vécu un temps de transition. Hein? Et ces gens-là étaient dans un temps de transition. C'était le peuple de la transition. Nous sommes le peuple de l'accomplissement. Israël était le peuple des premiers commencements, dans un sens, après Adam, à la suite d'Adam et Ève. Et eux, ils étaient le peuple de la transition, qui faisait la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et voilà pourquoi ils ont reçu cet ordre d'attendre quelque part, dans un endroit précis, la venue de l'Esprit, le don de l'Esprit. Mais à la suite d'eux, c'est seulement à la conversion que nous recevons le Saint-Esprit de Dieu. Et pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous met dans le corps du Christ. C'est l'Esprit qui nous met dans le corps du Christ. Si on n'a pas l'Esprit du Christ, on n'est pas dans le corps du Christ. Or, à la première seconde de notre conversion, nous sommes dans le corps du Christ. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous formons le peuple de Dieu. Ça prend l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous unit à Christ. Parce que l'Esprit, c'est l'Esprit du Christ. Donc, il n'y a pas besoin de cérémonie après. Après 3 ans, et avoir veillé mon tout, veillé à année pour aller recevoir le don de l'Esprit. Les quand tu un peu le désordre, sous bagaille ça. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas biblique, du moins. Alors, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un privilège réservé à un groupe de gens. Mon yo prier avec yo, mon yo mettre main sous tête yo, ou bien mon qui. Non, c'est chaque chrétien qui est en position pour recevoir, eh bien, le baptême du Saint-Esprit de Dieu. Donc, je crois que, c'est très clair pour nous. Et dans Tite 3, versets 5 à 6, la parole de Dieu dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, voyez-vous. L'Esprit qui vous régénère, l'Esprit qui vous renouvelle, c'est cet Esprit qui habite en vous. Et ça ne prend pas de cérémonie. Ça ne prend pas de temps de rassemblement spécial. Tite 3, versets 5 à 6. OK? Nous avons besoin de la direction de l'Esprit. Nous avons besoin de la puissance de l'Esprit pour le service. Mais nous n'avons pas à demander le Saint-Esprit, puisque nous l'avons déjà. C'est lui qui nous a habités et qui nous a incorporés dans le corps du Christ. Donc, je pense que nous sommes prêts pour enchaîner avec les versets 6 à 7 que j'avais laissés de côté et tout à l'heure. Versets 6 à 7. Ah, peut-être, il est déjà 53. Laisse-moi laisser, au lieu de voir verset 6 à 7, j'aime mieux laisser un petit temps pour vous si vous voulez intervenir. Comme ça, je n'aurai pas à étirer, déborder l'heure. J'aime mieux m'arrêter au lieu de revenir au verset 6 à 7. Ne vous en faites pas, j'oublierai pas que nous sommes rendus au verset 6 à 7. Aujourd'hui, nous avons épuisé verset 4 à 5 et 8 à. Voilà. Si vous voulez intervenir rapidement avant que je remette à Fréja, c'est le temps de le faire si vous estimez cela nécessaire. Sinon, on remet à Fréja pour ne pas déborder comme ça a été le cas quelques mercredis écoulés.
Merci.